Merci pour votre fidélité. On accueille Thomas Cluzel pour le journal de la rédaction. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Nous avons besoin d'un vrai sursaut d'autorité.
Oui, déclaration signée ce matin Gabriel Attal, lequel a choisi de s'exprimer depuis la ville endeuillée de Viry-Châtillon pour marquer son 100e jour à Matignon. Le Premier ministre appelle à la mobilisation générale de la nation pour renouer avec ses adolescents et à juguler la violence. Qu'est-ce qu'un salaire qui permet de vivre correctement? On posera la question après que le groupe Michelin a annoncé hier la mise en place d'un revenu décent garanti. Dans le cadre de la campagne pour les élections européennes, nous recevons aujourd'hui Mathieu Vallet, candidat Rassemblement National. À suivre également une nouvelle affaire d'espionnage en Allemagne. Deux hommes présentés comme des espions au bénéfice de la Russie ont été interpellés. Nous serons sur place. Enfin, la France est devenue le premier importateur européen de gaz russe. Alors dit comme cela, l'information a de quoi surprendre compte tenu de la volonté affichée de Paris de se désengager de sa dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou. L'information, on le verra, cache une réalité nettement plus nuancée. Crise agricole, dégradation budgétaire, loi immigration, sans parler des groupes de niveau à l'école pour lesquels l'ancien ministre de l'Éducation n'aura pas réussi à convaincre les syndicats depuis son arrivée à Matignon. C'est peu dire que Gabriel Attal a déjà connu nombre d'épreuves. Alors faut-il en déduire que le costume serait trop grand pour le plus jeune chef de gouvernement de la 5e République? Seule certitude, le Premier ministre n'entend pas pour autant rester tétanisé, bien au contraire, puisque pour fêter son 100e jour rue de Varennes, celui qui a été choisi, dit-on, pour son audace et sa capacité à communiquer, a choisi de répondre en direct ce soir à la télévision sur son premier bilan. Mais pas seulement, puisque celui qui, lors de sa première interview en tant que chef du gouvernement, avait promis de l'action, de l'action, de l'action, s'est par ailleurs rendu dès ce matin à Viry-Châtillon, cette ville de l'Essonne récemment marquée par la mort d'un jeune adolescent passé à tabac près de son collège. L'occasion d'y prononcer un long discours sur le respect de l'autorité. Héloïse Roger, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes sur place sur le parvis de l'hôtel de ville où Gabriel Attal vient de terminer son discours.
Oui, tout à fait. Pour lui, pour la jeunesse, il n'y a pas d'émancipation possible sans respect des règles. Gabriel Attal est très clair dans sa déclaration.
La culture de l'excuse, c'est fini. Il est temps d'ériger comme principe dans les familles, à l'école, dans la rue, une phrase simple, une phrase que j'ai affirmée dans ma déclaration de politique générale. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. C'est précisément le sens des annonces que je viens faire devant vous aujourd'hui, prendre le mal à la racine, s'attaquer au problème par tous les angles, par toutes les facettes, restaurer l'autorité à tous les niveaux, dans la famille, à l'école, dans les rues, faire évoluer les peines et les sanctions pour qu'aucun acte ne soit jamais laissé sans réponse, affirmer nos valeurs républicaines dès le plus jeune âge, renforcer notre stratégie contre la drogue, terreau de toutes les délinquances. Tendre la main aussi à ces jeunes pour les accompagner, pour qu'ils puissent revenir dans le droit chemin ou qu'ils ne le quittent jamais.
Gabriel Attal évoque donc des marqueurs très forts, accompagner, aider les parents, notamment les mères seules. L'objectif est aussi de pouvoir, pour le Premier ministre, de lutter contre l'oisiveté. Il veut rendre accessible à tous l'école de 8h à 18h et principalement dans les quartiers et dans les réseaux d'éducation prioritaires. Il propose aussi de renforcer l'accès à l'internat en incitant les élèves et les parents à y inscrire leurs enfants. Gabriel Attal a rappelé aussi l'importance pour lui de responsabiliser davantage les parents démissionnaires en réprimant les manquements des parents à leurs obligations, mais aussi en leur imposant des travaux d'intérêt général. Comme annoncé lors de sa précédente déclaration, il souhaite aussi que le juge pour enfants puisse prononcer des sanctions à l'encontre de ses parents. Un autre point soulevé, la régulation des écrans et des réseaux sociaux. Le Premier ministre dénonce un catalyseur de haine et de violence en rappelant les émeutes de l'été dernier. Gabriel Attal l'a martelé également. Il veut redoubler d'efforts contre la délinquance et ne rien lâcher, lutter aussi contre le trafic de drogue avec un nouveau plan. Il se donne 8 semaines donc pour que ce travail collectif aboutisse avec un point d'étape dans 4 semaines.
Merci Héloïse Roger ainsi qu'à Benjamin Reyes pour les moyens techniques.
La lutte contre la flambée de la délinquance, c'est aussi le credo défendu par le ministre de l'Intérieur.
Oui, en visite en Guadeloupe, Gérald Darmanin a ordonné hier soir l'instauration pendant 2 mois d'un couvre-feu pour les moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre, la préfecture de l'île qui aura largement nourri ces derniers temps la chronique des faits divers. La mesure doit s'appliquer à partir du début de la semaine prochaine et elle sera effective tous les soirs à partir de 20h. Le respect de l'autorité comptait. Justement, peut-être en sera-t-il question dans un instant à l'occasion des élections européennes. Vous le savez, nous inaugurons depuis cette semaine une série d'interviews politiques. Aujourd'hui, avec nous dans ce studio, Mathieu Vallet, policier, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et candidat pour le Rassemblement national. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Merci de votre invitation.
Vous interrogez Julie Paco. Bonjour Julie.
Bonjour Mathieu Vallet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci
sur France Culture. D'abord, une réaction à ce discours du Premier ministre sur ce sursaut d'autorité à l'école. Gabriel Attal qui se dit notamment prêt à ouvrir le débat sur des atténuations de l'excuse de minorité, ce principe qui fait qu'un mineur est sanctionné moins sévèrement qu'un majeur. Est-ce que cela va dans le bon sens selon vous? Le retour de l'autorité, c'est ce que vous réclamez depuis longtemps au Rassemblement national?
Moi, je suis issu du nord d'une ville populaire de la France. Écoutez, Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe, s'est fait massacrer dans la nuit de lundi à mardi par des individus qui sont très jeunes. On a deux mineurs, 14 et 15 ans, en garde à vue au commissariat de Dunkerque. Il a été massacré, défiguré, laissé pour mort et il est décédé de ses blessures à l'hôpital. Aujourd'hui, moi, venant des quartiers populaires, on a crever en France de la culture de l'excuse sociale. Et aujourd'hui, banco, si le Premier ministre nous dit qu'il faut mettre fin à la culture de l'excuse pénale, donc l'excuse de minorité, on est d'accord, quand vous êtes un sauvage, quand vous commettez des tels actes barbares en pleine rue, en pleine voie publique, sur des victimes innocentes, effectivement, il faut qu'on punisse ces mineurs comme ils se comportent comme des majeurs, parce qu'aujourd'hui, l'impunité des mineurs, c'est le premier carburant de la délinquance dans notre pays.
Donc la première réponse, c'est la punition des mineurs, selon vous?
Ah bah tout à fait, s'il n'y a pas de peur de la sanction, il n'y aura pas de prévention possible. Aujourd'hui, dans les établissements scolaires, dans les centres sociaux, dans les aides éducateurs, etc., on a toute une série de dispositifs qui permet de prévenir la délinquance, mais quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous comme moi, on est des gens civilisés, on pense pas à le massacrer, à le laisser pour mort, pour lui voler un portable, pour le détrousser, ou pour simplement faire un crime ou un acte gratuit.
Oui, l'enquête est en cours.
Je parle généralement.
Revenons sur votre parcours, Mathieu Vallet. Avant de rejoindre le RN, vous avez été chef adjoint de la BAC, la Brigade Anticriminalité dans le Val-de-Marne, porte-parole aussi du syndicat indépendant des commissaires de police jusqu'en décembre 2023. Comment ce changement de casquette est perçu par vos collègues? Est-ce que ce ralliement est naturel finalement, ce ralliement au RN?
Alors naturel, je ne sais pas. En tout cas, Jordan Bardella m'a proposé d'être sur sa liste. J'ai été honoré de pouvoir y répondre après une réflexion. Et effectivement, c'est un basculement de vie. J'ai servi mon pays pendant 20 ans en protégeant les Français comme 152 000 policiers et 100 000 gendarmes. Aujourd'hui, j'essaye de faire évoluer les idées de mon pays, faire avancer des sujets importants comme la délinquance des mineurs, comme la protection des policiers, comme la sécurité de nos concitoyens, mais aussi au niveau de l'Europe. J'espère qu'on en parlera au niveau des juges européens et des jurisprudences qui grèvent le travail des policiers et donc de la protection des victimes. Et donc pour moi, effectivement, c'est une bascule qui s'est pas fait naturellement, j'y ai pas pensé, mais quand on me l'a proposé, après une réflexion, je me suis dit c'est l'occasion de pouvoir aller plus loin puisque le syndicat, malheureusement, a atteint ses limites lorsqu'on représente la voix de ses collègues, qu'on fait des propositions et que malheureusement, on n'en voit pas à l'issue puisqu'on n'a pas eu beaucoup de retours auprès du gouvernement sur des propositions qu'on faisait.
Vous êtes en position éligible sur la liste du Rassemblement.
Septième place.
Est-ce que vous vous projetez vraiment à Bruxelles dans ces habits d'eurodéputé? Comment vous envisagez finalement votre mandat européen?
D'abord, cette septième place que Jordan Bardella m'a proposée, c'est un signal fort pour les policiers et les gendarmes. Mais je vous le dis tout net, j'espère que le 9 juin 2024, le tour des élections européennes, il y aura le maximum de policiers, de gendarmes, de militaires, de policiers municipaux et de pompiers qui viendront voter pour cette liste parce que j'espère porter haut les couleurs de nos institutions à l'Europe. À l'Europe, il y a beaucoup de sujets. Il y a l'immigration. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une statistique qui est tombée. 77% des crimes, des viols illicites dans les rues de Paris sont le fait d'étrangers. Donc dans notre parti, on n'est pas anti-étrangers, on est pro-français. Et moi, j'estime que, issu de l'immigration, ma mère est espagnole. Lorsqu'on a la chance d'être accueilli sur un territoire où, au pire, on y arrive en violant la loi, en entrant comme clandestin, on peut pas non plus payer le luxe de faire des victimes. Donc, ceux qui sont légalement sur le territoire qui font des victimes, ils doivent être jugés et expulsés. Et ceux qui rentrent illégalement, c'est la loi votée par les représentants du peuple, ils doivent être expulsés. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je vous rappelle qu'il y a moins de 10% d'obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées dans notre pays. Et là, l'Europe a une lourde responsabilité sur ce sujet-là.
Le RN est porté par des enquêtes d'opinion qui lui sont favorables ces dernières semaines, avec plus de 30% d'intention de vote. Le parti apparaît comme le favori pour le scrutin de juin prochain. Est-ce que cela incite le parti à faire preuve de prudence? On a vu votre tête de liste, Jordan Bardella, sécher plusieurs débats ces dernières semaines.
Oh, vous inquiétez pas, il va en faire plusieurs. Il en a déjà fait sur le Figaro avec Manuel Valls, il en a programmé d'autres. Il rencontre aussi les entrepreneurs, donc c'est pas le débat qui lui fait peur. Il a fait avec, je vais sur votre antenne, France Inter, il me semble, avec Raphaël Glucksmann, la tête de liste Parti Socialiste pour les Européennes. Donc il fera des débats. Moi, je mets en garde nos électeurs et les électeurs français sur cette facilité que pourraient faire croire ces sondages qui sont flatteurs. Le seul tour qui compte, c'est le 9 juin, il faut qu'on sont mobilisés et il faut absolument que le maximum de Françaises et de Français aillent voter. Parce qu'aujourd'hui, aux dernières élections européennes de 2019, il me semble que c'était 49% de participation, donc moins d'un électeur sur deux qui allait voter. Et ça, ça doit interroger tous les partis politiques.
Mais est-ce que ces élections ne sont pas pour le RN une sorte de tremplin pour 2027? On le voit, vous faites campagne sur des thématiques très nationales, notamment la sécurité. Il n'y a pas une confusion finalement dans la nature de scrutin, scrutin?
Il y a deux enjeux. Le premier, c'est de sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. Vous voyez bien que les faits divers aujourd'hui, que moi j'appelle faits d'insécurité, puisqu'ils touchent tous nos compatriotes sur tous les territoires, on parle souvent de la métropole, mais on peut parler de Mayotte, on peut parler de la Réunion, on peut parler de la Guadeloupe, donc ces territoires ultramarins qui sont la France. Aujourd'hui, par exemple, à Mayotte, vous avez 50% de la délinquance qui est issue des étrangers. Vous avez les Comoriens, avec d'ailleurs l'appui de la Russie, qui aujourd'hui veut envahir Mayotte. Et les Mahorais, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent être français comme les autres, avoir les mêmes droits que français. Alors on nous enchaîne les opérations One Bunchu pour les protéger, mais nous, ça sera pas des opérations ponctuelles, ça sera des opérations et des décisions dans la durée qui visent à protéger les Mahorais et plus globalement les ultramarins, mais aussi à leur assurer un avenir économique, un avenir paisible, au même avenir que nos compatriotes sur le territoire métropolitain ont droit, comme les ultramarins par exemple. Mais les sujets européens, vous en avez, il y a le marché européen de l'énergie, il y a l'immigration, il y a la taxe carbone, il y a l'agriculture. C'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on m'interroge pas, puisqu'évidemment j'ai une tendance sur la sécurité vu mon parcours. Mais par exemple, si je peux me permettre une proposition, moi, j'ai vu sur le terrain des agriculteurs, notamment lors de la crise agricole, ils sont venus manifester à Paris, donc en tant que policier, je les ai rencontrés. Vous avez des agriculteurs aujourd'hui français qui subissent une surtransposition des normes environnementales, là où les policiers subissent une surtransposition des normes procédurales. Nous, ce qu'on propose, c'est que dans les cantines françaises, on puisse manger de la nourriture fabriquée par des agriculteurs français. Aujourd'hui, rendez-vous compte, 60% de la viande est issue de la production étrangère. Donc ça, c'est par exemple une mesure concrète que l'Assemblée nationale propose et qui fait partie des sujets européens. Mais j'aurais pu vous le dire sur le pacte asile immigration, mais je vous réinviterai, j'imagine.
Beaucoup de sujets, effectivement, sur lesquels nous reviendrons d'ici le 9 juin. Merci Mathieu
Vallet
de nous avoir accordé cette interview. Donc candidat, je le rappelle, sur la liste du Rassemblement National pour les prochaines européennes. Merci également à vous, Julie Paco.
Biogarant, leader des médicaments génériques en France, est à vendre, Thomas.
Et au total, 4 repreneurs de la filiale du géant de la pharmaceutique Servier seraient intéressés. 2 investisseurs européens, 2 laboratoires indiens. Sauf que les sommes mises sur la table par les candidats européens sont en l'occurrence plus faibles que leurs homologues asiatiques. De quoi déjà inquiéter donc sur la pérennité de la production en France. Célia Gutti, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, le laboratoire produit l'essentiel de sa production en Europe, dont la moitié dans l'Hexagone. Sauf que ce modèle, Célia, est assez peu intéressant en réalité pour des investisseurs étrangers.
Et si côté consommateur, Biogarant est un colosse, un médicament sur 6 que nous consommons porte son nom sur l'emballage. Côté entreprise, c'est les pieds d'argile de son modèle qu'on remarque. Selon l'industrie pharmaceutique, produire en France n'est pas rentable, surtout pour les génériqueurs. Sur les 900 références de médicaments de Biogarant, 150 sont à marge négative et impossible d'augmenter les prix pour agrandir les marges. Ils sont fixes. Alors, depuis 2022, le prix des médicaments made in France peut bénéficier d'une valorisation, mais elle est rare, souvent faible et surtout temporaire. C'est le cas de l'amoxicilline, produit par un sous-traitant français sous le logo Biogarant. L'antibiotique le plus prescrit de France a obtenu une revalorisation de 11% suite à une pénurie en automne dernier, 20 centimes par boîte jusqu'à fin avril. Ajouté à l'objectif de l'État de 850 millions d'économies sur les médicaments pour cette année et la clause de sauvegarde, un prélèvement de l'État sur le chiffre d'affaires des génériqueurs, il n'y aurait que peu d'intérêt pour des laboratoires indiens à garder leur production en France s'ils venaient à racheter Biogarant. Ce serait un coup dur pour les 8600 employés et la réindustrialisation voulue par le gouvernement. Biogarant produit 32% de la production française de médicaments. Bercy est en droit de s'opposer à une vente extra-européenne puisque le secteur de la santé est stratégique.
Merci Célia Gutti. Mardi dernier, Carlos Tavares, patron du groupe Stellantis, obtenait la validation par ses actionnaires de la hausse de sa rémunération qui pourra désormais atteindre 36,5 millions d'euros, soit près de 100 000 euros par jour. Mais parce que tous les gros patrons ne pensent pas qu'à leur salaire, le groupe de pneumatique Michelin a lui annoncé hier la mise en place d'un revenu décent garanti. Alors l'idée, vous l'aurez deviné, n'est pas d'abaisser les salaires les plus exorbitants, mais plutôt d'accorder une rémunération qui permette déjà à chaque salarié de subvenir à ses besoins essentiels. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors on pourrait bien sûr s'interroger sur cet engagement qui semble en réalité assez logique par nature, dès lors que le salarié d'un groupe travaille et contribue donc au développement de son entreprise. Quoi qu'il en soit, Catherine, qu'entend-on aujourd'hui par un salaire qui permet de vivre correctement?
Eh bien en tout cas en France, ce n'est pas le salaire minimum, le SMIC, estime le président du groupe Michelin. Florent Ménégaud lui a choisi de rehausser les plus bas salaires dans tout le groupe, une démarche entamée durant l'épidémie de Covid. Alors désormais, l'entreprise déploie pour l'ensemble de ses employés et sur tous les continents où il est présent, un salaire décent. C'est c'est une rémunération équivalente au living wage défini par le Pacte mondial des Nations Unies, de quoi pourvoir aux besoins d'une famille comprenant en moyenne 2 enfants et 2 parents, c'est-à-dire payer l'alimentation, le logement, le transport, mais aussi se constituer une épargne de précaution. Michelin a travaillé pour cela avec une ONG, Fair Wage Network. Ce salaire décent, il n'est pas le même partout. En France, il s'établit à Paris à 39 600 euros par an et à 25 300 euros à Clermont-Ferrand. À titre de comparaison, le salaire minimum, c'est-à-dire le SMIC annuel, atteint 21 200 euros. En Chine, Michelin propose 2,5 fois de plus que le salaire moyen local. Aux États-Unis, la paie d'un ouvrier du groupe est presque 3 fois supérieure au montant minimum. L'enjeu de la juste rémunération est mondial, comme le montre aussi à l'autre bout du spectre le débat récent, vous l'évoquiez Thomas, autour du salaire du patron de Stellantis et cette question, faut-il limiter le salaire des patrons? En somme, y aurait-il un salaire maximal décent? Ici, l'une des questions centrales, c'est peut-être celle de l'écart des salaires. Si le patron de Michelin a limité la hausse de son propre salaire, l'écart avec le plus bas salaire reste de 1 à 40, sans commune mesure du reste avec l'écart entre la rémunération de Carlos Tavares, 518 fois plus élevé que le salaire moyen chez Stellantis.
Merci Catherine Pétillon.
Vous écoutez France Culture, il est 12h46 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Benjamin Netanyahu va-t-il céder à la surenchère pour s'assurer le soutien de tous ceux qui, chez lui, le tiennent pour responsable du drame des otages à Gaza? Ou bien le Premier ministre israélien privilégiera-t-il la voie diplomatique pour capitaliser sur le soutien international inespéré qu'il a su récupérer à la faveur de la colère des ayatollahs iraniens? Pour l'heure, l'État hébreu n'a toujours pas tranché. De son côté, l'Union européenne a décidé hier soir, à l'instar des États-Unis, la veille d'élargir ses sanctions contre le régime de Téhéran. Et puis en parallèle, l'armée israélienne poursuit inlassablement son opération de destruction massive dans la bande de Gaza en représailles à l'attaque terroriste du 7 octobre.
C'est sans doute la frappe la plus meurtrière menée depuis le début de la guerre contre cette cité historique située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev.
Oui, à Tchernigiv, les images officielles montrent des mares de 118 morts et 77 blessés. C'est le dernier bilan de l'attaque perpétrée hier par l'armée de l'envahisseur russe. Et c'est dans ce contexte, notamment après déjà 2 années de guerre sanguinaire. Alors même qu'Emmanuel Macron s'affiche régulièrement en principal défenseur d'une ligne dure vis-à-vis de Moscou, qu'on apprend que la France est aujourd'hui le premier importateur européen de gaz naturel liquéfié russe. Une information largement exploitée aujourd'hui par le Kremlin, où on ne perd jamais une occasion de cibler Paris. Les précisions depuis Moscou de Sylvain Tronchet.
Ces derniers mois, le premier importateur européen de gaz russe restait la Hongrie. Le régime de Viktor Orban, qui maintient une certaine proximité avec Moscou, importe du gaz russe par gazoduc en grande quantité, ce que ne font plus la plupart des pays européens. Mais en février, les livraisons hongroises ont chuté, plaçant donc la France au premier rang des importateurs européens de gaz russe, mais de gaz naturel liquéfié, transporté par bateau. Cette réalité est connue, la France, comme d'autres pays de l'UE, l'Espagne, la Belgique, continue d'importer du GNL russe, la faute notamment au contrat signé par Total avant la guerre, la faute aussi à la difficulté de se désengager totalement du marché russe. Ceci dit, ce que les médias russes, qui font leur chou gras de cette information ce matin, ne précisent pas, c'est que les importations globales de gaz russe ont lourdement chuté. La Russie, qui représentait 40% des importations européennes, était tombée à 15% fin 2023. L'UE envisage de stopper complètement sa consommation de gaz russe en 2027, le tout dans un contexte de baisse des cours, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Moscou.
Quand la guerre en Ukraine s'exporte décidément hors des frontières du champ de bataille, ce matin, le parquet fédéral allemand a annoncé l'arrestation de 2 espions russes présumés, soupçonnés d'avoir planifié des actes de sabotage afin de saper le soutien militaire de Berlin à Kiev. C'est une correspondance signée Sébastien Baer.
L'un des hommes interpellés semblait mener une opération de repérage depuis au moins 6 mois. Présenté comme Dieter S., 39 ans, il aurait pris des photos et tourné des vidéos de plusieurs cibles potentielles. Parmi les sites espionnés figurent des installations industrielles et la base américaine de Grafenwöhr en Bavière. Elle abrite un important terrain d'entraînement militaire où l'armée forme des soldats ukrainiens à l'utilisation des chars de combat Abrams. Selon les autorités, l'homme transmettait ensuite ces informations à un contact lié au service de renseignement russe. Dans son communiqué, le parquet déclare que Dieter S. était prêt à commettre des attentats à l'explosif et des incendies criminels. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir combattu contre les troupes ukrainiennes entre 2014 et 2016 au sein d'une unité armée baptisée République populaire de Donetsk. Il s'agit d'un groupuscule pro-russe considéré comme une organisation terroriste. À la fin du mois dernier, l'autre accusé, qui a aussi la double nationalité allemande et russe, aurait rejoint Dieter S. pour l'épauler dans sa mission de repérage. Les procureurs qualifie cette affaire de particulièrement grave. Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Allemagne a été secouée par plusieurs affaires d'espionnage au bénéfice de la Russie. Un ancien agent secret est jugé en ce moment à Berlin pour avoir transmis des informations classées secret défense au FSB, les services de sécurité russes.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Plutôt calme sur la moitié ouest ainsi que sur l'extrême nord du pays. En revanche, le long de la frontière à l'est et sur le pourtour méditerranéen, le ciel restera encombré avec des averses fréquentes et même parfois orageuses. Quant aux températures, elles afficheront entre 12 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.